Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture et édition spéciale cette semaine. Salut Benoît.
Spécial, spécial.
Mm-hmm. Pierre, salut Pierre-Marc.
Salut Mathieu.
On sort dans des événements des fois et là on est sorti à l'occasion de journée internationale du droit de la femme.
Mm-hmm. Ouais.
Parce qu'il y a une coalition d'organismes là, qui recevait une personne une personnalité de taille en politique.
Faut le dire, ça a été vraiment vite. On a eu un petit quickie avec Françoise David, là.
Ouais, un petit quickie.
Ouais, ça sonne weird, hein? Ouais.
J'aurais pas dit comme ça, mais...
Une entrevue rapide avec Madame David, excusez mon langage. Ça sonnait mieux dans ma tête.
Quickie, faut garder ça à l'interne.
Ouais,
le terme quickie, faut garder ça à l'interne. Mais ouais, c'était vraiment le fun. Puis bon, on se doutait bien que son horaire était rechargé, mais elle a quand même accepté de sa personnalité très généreuse de nous donner une quinzaine de minutes là en entrevue. Donc on a pu discuter de sa participation avec le mouvement des Démocraties Nouvelles qui participe à la réforme du mode de scrutin. Donc on a un petit peu décortiqué ça, quel était le projet et où en étaient les avancements de ce dossier-là.
On a parlé un petit peu aussi du parti de Québec solidaire,
ouais.
Là, de sa vision de qu'est-ce qu'elle appréciait là, de maintenant, parce que là, elle a pris sa retraite de politique, mais on a eu un petit peu sa vision sur la jeunesse du parti.
Et la place des femmes en politique, notamment l'évolution de tout ça, tout le contexte aussi, la violence sexuelle faite aux femmes, tout ça qu'on parle beaucoup là, ces derniers temps, parce qu'il y a toutes sortes de dossiers qui sont atroces dans l'actualité. Bon, faut trouver des solutions à un moment donné. Donc, il faut faire avancer les choses. Donc, on en parle un petit peu avec elle. Donc, c'est une très belle discussion, courte, mais très pertinente.
Mm-hmm. Il y a de la pertinence au pied carré là-dedans.
Ouais, donc réécoutez-le souvent, c'est ça qui est le fun. Il est plus court, mais réécoutez-le 4 fois, ça va faire comme
ça
une heure.
Ça va faire une émission ordinaire.
Puis vous allez juste comme mieux comprendre tout le temps, fait que ça va être parfait.
Yes.
On remercie nos partenaires.
Merci, Médiaté Communication.
Médiaté.
Et Hydro-Québec pour le courant quotidien.
C'est essentiel. S'il n'était pas là, il n'y aurait pas de podcast.
J'ai un shout-out cette semaine.
Oui.
Ah ouais?
Ouais, je vais faire un shout-out à Godz Lorando, qu'on avait rencontré lors de nos enregistrements de podcast à Montréal.
Yes.
Merci pour ton écoute.
Tu avais jasé un petit peu.
Oui, il était venu s'informer de quel était le podcast. Il nous a informé qu'il travaillait sur celui de Fred Savard aussi.
Mm-hmm.
On va écouter ça bientôt, nous autres aussi. On va t'en donner des nouvelles. Merci beaucoup pour
l'écoute. J'ai écouté des ballons de Fred Savard, puis c'est très pertinent. Là. C'est du gros contenu sale. On a des croûtes à manger, les gars.
Ah ouais?
Ouais, sûrement, j'imagine.
Mais c'est une autre forme, dans le fond. C'est plus, de la chronique, puis tout ça. Mais ouais. Ouais. C'est un aussi, là, si vous avez commencé à consommer du podcast, ça fait partie de votre liste.
De votre wish list.
Ça vaut la peine. Puis ils sont même venus en région enregistrer un spécial, je crois, avec la gang de Qu'en pensez-vous?
Exact, à Rouen. Sinon, si vous écoutez à Rouen de Val-d'Or, là,
en tout cas, quelque part.
À quelque part.
Ta radio, là, ça peut être partout.
Val-Noranda.
Fait que aimez, partagez, commentez. C'est toujours le fun d'avoir vos commentaires qu'on vous en laisse.
Ouais.
Sinon, je vous souhaite bonne écoute.
Ben oui,
bonne écoute.
Appropriation culturelle.
Alors, nous sommes Pierre-Marc Langevin,
Benoît-Saint-Pierre. Et nous sommes Mathieu Proulx aussi.
C'est ça, Mathieu Proulx. Au campus Cégep d'Amos, parce qu'on rencontre une personnalité de la politique québécoise qui est quand même très, très inspirante.
Mm-hmm.
J'ai l'honneur de vous présenter Mme Françoise David.
Bonjour.
Ex-députée de Gouin. Ex-présidente de la Fédération des femmes du Québec également. Donc, beaucoup d'implications depuis plusieurs années. Vous n'êtes plus en politique depuis 2017, mais bon, là aujourd'hui, vous avez passé une bonne partie de la semaine en Abitibi pour parler de toutes sortes de sujets. Évidemment, aujourd'hui, c'est la Journée internationale du droit de la femme. Vous avez parlé aussi de nouveaux modes de scrutin. Vous pourriez prendre des vacances puis juste vous reposer, mais vous choisissez de vous impliquer encore. Donc, qu'est-ce qui vous amène à vous impliquer, à poursuivre le travail différemment?
Les vacances, c'est vraiment merveilleux puis intéressant, mais quand entre les vacances, on fait quelque chose aussi, tu sais. J'ai toujours dit que la retraite, c'était pas d'être sur une chaise berçante du matin au soir. Là, c'est un peu ennuyant quand même.
Mm-hmm.
Donc, j'ai d'abord pris le temps de me reposer. Quand j'ai quitté, j'étais vraiment, vraiment fatiguée.
Ouais.
Et j'ai voyagé. Bon, oui, j'en ai pris du temps. Et puis, à un moment donné, il y a des gens du mouvement Démocratie Nouvelle qui m'ont approché. Ça, c'était il y a 2 ans. Et qui m'ont demandé si je voulais travailler avec eux sur la réforme du mode de scrutin. Et pourquoi ils venaient me voir? Bien, c'est parce qu'il y avait un moment historique qui se dessinait à l'horizon.
Oui.
Des partis politiques qui étaient d'accord, 3 partis sur 4, pour changer le mode de scrutin.
Mm-hmm.
Et que donc, si on pouvait obtenir des engagements électoraux, bien, peut-être que finalement, ça se ferait, tu sais,
mm-hmm.
après 20 ans de lutte de cet organisme-là. Alors, je me suis dit, bon, c'est vrai, le moment semble bien choisi. Ben, je vais donner un coup de main. Le coup de main, oui, c'est ça, j'aurais dû le savoir. Le coup de main a finalement abouti à je suis vice-présidente du mouvement Démocratie Nouvelle, puis je m'implique pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a un projet de loi qui a été déposé le 25 septembre dernier. La commission parlementaire vient d'entendre les groupes et les experts, donc c'est quelque chose qui avance. Est-ce qu'on va en venir à bout? Est-ce que cette fois-ci, on va assister à une vraie réforme du mode de scrutin, rendre finalement l'Assemblée nationale plus démocratique, plus représentative de l'ensemble des opinions? On verra. Ouais. Il faut continuer d'y mettre des efforts. Mais, tu sais, ça m'intéresse en même temps. J'ai envie de contribuer. J'ai la chance, malgré mon âge certain, d'avoir une bonne santé. Et je trouve ça intéressant, tout comme je trouve intéressant ce matin, hier, avant-hier, d'avoir rencontré, ben, finalement, au total, autour de 200 femmes de l'Abitibi, avec lesquelles j'ai beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de questions, il y a des commentaires. Moi, je trouve ça très, très nourrissant. J'aime faire ça. Ce n'est pas un sacrifice.
Non, c'est ça. Et on a parlé un peu du mode de scrutin. On peut continuer là-dessus un petit peu. Les quatre partis, c'est entendu, là, QS, le PQ, la CAQ, c'est entendu à l'époque, Parti vert aussi, je crois.
Parti vert, mais pas les libéraux.
Pas les libéraux, évidemment. Bon, les libéraux ont été tassés aux dernières élections, donc on s'attendait à ce que ça progresse un peu plus concrètement, mais là, finalement, tu arrives avec un projet de loi, puis on dit, bon, ça, on va voter en 2022 sur la question. Est-ce que c'était pas une déception pour vous?
Oui.
Ouais.
Oui, oui, nous... on avait donné jusqu'au 1er octobre 2019 pour déposer un projet de loi. Donc, les délais ont été respectés. Mais, oups, on apprend le 25 septembre avec le projet de loi qu'il y aura un référendum en même temps que l'élection en 2022 et que donc tout ça ne sera pas mis en œuvre avant 2026. On le sentait venir, pour être honnête, là. Mais oui, c'est une déception. Alors, ce qu'on a dit, c'est au fond, M. Legault, il a rempli la moitié de l'engagement. Mais l'autre moitié reste à faire. Et en plus, quand on s'est mis à analyser le projet de loi, il y a des bons éléments, mais il y a des problèmes importants. Là. C'est un peu technique et compliqué, donc j'entrerai pas trop dans le détail, parce que c'est plus ou moins intéressant. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir, c'est que par des moyens un peu détournés qui n'existent nulle part ailleurs où il y a un scrutin proportionnel, le gouvernement de M. Legault s'arrange pour pouvoir avoir un gouvernement encore majoritaire avec à peine 41-42% des voix, donc même pas la majorité. Ça, c'est embêtant. Sur la parité, ils inscrivent un principe, aucune mesure contraignante, c'est un peu fatigant. Donc, il y a des améliorations concrètes à apporter à ce projet de loi. Ils ont par contre tenu compte de recommandations qu'on leur avait faites sur le poids politique des régions. Donc, on conserve les 17 régions administratives, chacune des régions, sauf rares exceptions, va conserver le même nombre de députés. En fait, Montréal perd des députés. Fait que pour une fois, les gens des régions ne pourront pas dire que Montréal a tout et régions n'ont rien. C'est le contraire.
Et c'est la ligne libérale aussi. Donc, c'est encore ça qui nous disent que, dans le fond, les régions vont perdre du poids. Mais les libéraux, est-ce qu'ils sont crédibles à ce niveau-là?
Pas tellement, non. Franchement, c'est pas sérieux. Là. Montréal, avec 3 députés de moins continuent d'avoir le même poids politique et économique. Il ne faut pas virer fou. Mais que l'Abitibi-Témiscamingue conserve 3 députés, c'est super important. Nous, au MDN, au Mouvement Démocratie Nouvelle, on propose même qu'il y en ait 4. 2 députés de circonscription et 2 députés de région. En passant, contrairement à ce que j'ai lu d'un ancien député de votre région, les députés de région pour lesquels les gens vont voter, vont être des candidats connus, des gens de la région. Non, ce n'est pas vrai qu'il y aura juste le nom du parti sur le bulletin de vote. Il va y avoir aussi le nom de la candidate. Alors ça, c'est important, là. Et ces gens-là devront faire campagne autant que les députés de circonscription. Et depuis 4 jours que je parle de tout ça avec toutes sortes de monde, je me rends compte que les craintes exprimées par certaines personnes ne sont pas partagées par tant de gens que ça. Le poids politique des régions demeure le même, le nombre de députés demeure le même, à notre avis, il pourrait même être augmenté. Donc, il n'y a pas de problème avec le nouveau mode de scrutin pour les régions.
Parfait. Et bon, justement, ça, ce projet de loi-là, c'est pour la représentativité, pour mieux représenter les gens finalement, du Québec en entier.
Oui.
On doit parler aussi de la présence des femmes en politique. Vous avez été une des précurseurs, la deuxième députée élue de Québec solidaire, première femme. quel chemin qui a été fait depuis ce temps-là? Trouvez-vous qu'on a amélioré les choses? En même temps, on parle beaucoup du coton ouaté à Catherine Dorion et non pas de ses idées. Donc,
oui, ça, c'est vraiment dommage parce que pour vos auditrices et auditeurs, moi, je suggère la lecture des livres de poésie de Catherine Dorion. C'est une merveille. Elle a un talent, cette femme, ça n'a pas de bon sens.
Bon, on a reçu aussi Catherine
Dorion.
Avec
Sol Zanetti. Ouais. Non, le coton ouaté, c'est une distraction, là. Soyons un peu sérieux. moi, je trouve...
Mais pourquoi on accorde tant d'importance, tu sais? Pourquoi c'est ça qui retient l'attention?
Parce que... Je sais pas. C'est vrai, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on accorde tant d'importance à une histoire vestimentaire? Mais tu vois, ce matin, il y avait une centaine de femmes dans la salle, puis on s'est mis à parler de vêtements à un moment donné. Et je disais aux femmes... Rendez-vous compte, on ne parle jamais de l'habillement des hommes, que ce soit à l'Assemblée nationale ou ailleurs, dans le monde culturel, artistique, on parle à peu près jamais de ça. Il y a peut-être Hubert Lenoir qui fait un peu réagir, mais je pense que c'est exactement ce qu'il veut.
Il cherche ça.
Mais dès qu'une artiste féminine, dès qu'une politicienne est un peu différente des autres, scandale. Alors moi, je disais aux femmes ce matin, on veut toujours savoir jusqu'à quel point les femmes vont être habillées ou déshabillées et comment... Est-ce qu'on pourrait arrêter ça un petit peu, là? Mais ceci dit... Moi, je pense quand même que les femmes avancent à toutes sortes de points de vue. La condamnation d'Harvey Weinstein, est-ce que je peux vous dire que j'ai eu vraiment mon moment de grand bonheur? J'espère qu'il y en aura d'autres. À l'Assemblée nationale, il y a maintenant 44% de députés, c'est du jamais vu. Mais, il y a toujours des mais, à part deux femmes, le Conseil des ministres de M. Legault, M. Legault a donné à son Conseil des ministres, là, les postes les plus importants aux hommes, c'est très clair. Sauf pour la santé, c'est une femme, et pour la justice, c'est une femme. Mais sinon, tout ce qu'il y a d'économie, là, c'est homme, homme, homme. Alors, nous, ce qu'on dit dans les groupes qui militent pour la parité, c'est que c'est pas tout de faire élire des femmes. Il faut aussi être capable de confier à des femmes des rôles très importants, parce que les femmes sont compétentes.
Si je me trompe pas, le gouvernement fédéral, par contre, a fait la parité.
Oui.
J'ai pas regardé les postes, par exemple.
Il y a quand même femmes des femmes qui ont des postes importants. La vice-première ministre au fédéral est une femme, Chrystia Freeland. C'est elle aussi qui a négocié tout le dossier de l'ALENA, ce qui n'était pas rien, un adversaire américain qui n'était pas reposant.
un enfant adulte.
Quelque chose comme ça, il y a des enfants plus raisonnables que ça. Donc, je pense qu'au Québec, là-dessus, on a encore des croûtes à manger. Dans le projet de loi 39, il y a un article qui porte sur la parité, mais il n'y a à peu près rien dedans. Donc, nous proposons au gouvernement Legault d'améliorer vraiment cet article-là, s'assurer que dans les listes de candidatures, il y ait clairement parité homme-femme, donc femme-homme-femme-homme, homme-femme-homme-femme. C'est pas difficile, ça, à faire une liste comme ça. Et que dans les circonscriptions, il y ait au moins 45 % de candidatures féminines, puis avec des conséquences si les partis ne le respectent pas. Parce qu'il faut, tu sais, à un moment donné, il faut qu'il y ait des règles. Oui, la dernière fois, ils ont présenté beaucoup de femmes, mais c'était dans la foulée du mouvement, moi aussi. Il n'y a pas un parti qui aurait pu présenter 25 % de femmes, là, ça n'aurait pas passé. Mais ça ne sera pas toujours le cas. Donc, il faut qu'il y ait des règles et on va se battre là-dessus.
Mais sinon, vous avez donné une conférence aujourd'hui qui était sur c'était concernant la journée de la femme. C'est quoi porter la...
C'est la journée internationale des droits des femmes. Donc, en fait, les trois centres de femmes, Rouen, Amos et Lasserre, m'avaient invité à venir parler vendredi soir, samedi, hier et aujourd'hui. Et moi, je leur avais dit, OK, on parlera des défis, des enjeux qui confrontent les féministes en 2020. Alors, on a parlé violences faites aux femmes, évidemment. On a parlé climat. On a parlé inégalité sociale, inégalité de revenus, inégalité entre les femmes aussi, là. Et puis, on a parlé de parité. J'en ai profité. Je leur ai pas fait un grand speech sur la réforme du mode de scrutin, mais j'ai dit, j'aimerais ça que vous surveillez ça. Parce qu'avec cette réforme du mode de scrutin, on pourrait enfin obtenir des règles claires pour la parité homme-femme à l'Assemblée nationale. Mais donc, dans les trois cas, on a fait un survol là, de ce qu'a vécu le mouvement des femmes depuis 20 ans. On est arrivé à aujourd'hui, ce qui reste à faire. Il y a eu des très, très beaux échanges avec les femmes. Les questions de violence faites aux femmes ressortent énormément. Mais aussi, et ça m'a peut-être encore plus frappé hier, la question de la non-reconnaissance du travail des femmes. Là, les syndiqués du secteur public s'en vont en négociation. C'est 75 % de femmes. Okay. Le gouvernement parle toujours du personnel de la santé, du personnel d'éducation, qui est un mot neutre. Mm-hmm. Mais en fait, c'est 75 % de femmes. Mm-hmm. Et les offres qu'on leur fait sont ridicules. Mm-hmm. On ne reconnaît pas à sa juste valeur le travail qui consiste à s'occuper des gens, mm-hmm. des personnes vulnérables, des malades, des enfants, des personnes âgées. Alors qu'on accorde énormément de valeur à l'autre économie, qui est celle des ressources naturelles, des mm-hmm. mines, du pétrole, machin. Puis là, on pourrait avoir toute une discussion là-dessus. Alors, moi, ce que je plaide beaucoup, c'est soyez attentifs devant un discours qui va dire « Ah, les syndicats en demandent trop ». Ce n'est pas les syndicats, c'est les femmes. Les femmes exigent en 2020 d'être payées convenablement pour faire un travail essentiel mm-hmm. et en plus d'avoir des conditions de travail raisonnables. Ce n'est pas tout ça d'être payé. Mm-hmm. Si on coupe plein de postes dans ton équipe de travail puis qu'il faut que tu donnes la même quantité de service, tu n'y arrives pas.
Non, c'est sûr. Effectivement.
Fait que ça, ça a été beaucoup ramené. À chaque endroit, les femmes apportent des préoccupations un peu différentes. Hier, ça a été énormément ramené, cette question des, de la valeur du travail des femmes. Ce matin, ça a été davantage sur les mm-hmm. questions qui touchent les violences. Voilà.
Super. Sinon, terminant, peut-être, j'ai le goût de vous entendre un peu sur la progression de votre ancien parti, Québec solidaire. Comment vous trouvez leur travail jusqu'à présent à l'Assemblée nationale? Est-ce que
ben, écoute,
vous êtes satisfait de vos nouveaux
moi,
nouveaux
je suis parti, on était 3, et puis un an après, ils sont 10. Fait que moi, je dis en riant, ben, écoute, il fallait que je parte. Non, non, c'est pas tout à fait ça. Je pense qu'à un moment donné, les astres s'alignent. Je pense qu'il y a toutes sortes de conjonctures qui arrivent. Je pense que les esprits mûrissent. Mm-hmm. Il y a des comtés, évidemment, où déjà, ça allait très, très bien. Donc là, il s'agissait juste, ben, juste, c'est beaucoup de travail, mm-hmm. de faire un pas de plus. Donc, ils sont et elles sont 10. Donc, c'est un caucus paritaire, en passant. Oui. 5 femmes, 5 hommes. Sur 10, 2 personnes issues de la diversité ethnoculturelle. Mm-hmm. Donc, moi, je pense que c'est vraiment bien. Moi, dans l'ensemble, je regarde ça, mais de l'extérieur, là, vraiment. Mm-hmm. Et dans l'ensemble, je trouve qu'il y a d'excellentes idées. C'est le parti qui défend le mieux toute la lutte amenée au changement climatique. Là. Mm-hmm. Moi, je trouve ouais, facilement. Que là-dessus, mm-hmm. ils sont très, très, très sérieux. Bon, parfois, c'est sûr que je souris parce que j'entends des choses, je vois des choses, je me dis, bon, je ne l'aurais peut-être pas fait tout à fait comme ça, mais je ne vous dirai même pas quoi, puis je n'en parle pas, parce que probablement que d'autres, quand moi j'étais là, se disaient, oh, peut-être que je n'aurais pas fait exactement comme ça. Alors moi, je ne jouerai ni les beaux-pères ni les belles-mères, mais je veux simplement dire que même si parfois il peut m'arriver de me poser des questions, dans l'ensemble, là, je trouve qu'ils font du bon travail. Et je commence à les connaître. Il y en a que je ne connaissais même pas, moi, dans les 10. C'est merveilleux. Mm-hmm. Ça veut dire que la relève est là. Mm-hmm. Là, je commence à les connaître. Je trouve que c'est des gens sérieux. Mm-hmm. On sent que les dossiers sont travaillés. Ces personnes-là parlent de choses qu'elles connaissent. Mm-hmm. Et à un moment donné, au-delà des affaires de coton ouaté, là, le sérieux de ce travail-là va finir par être reconnu.
Et la manière de communiquer aussi, j'ai l'impression qu'ils rejoignent ben, justement les jeunes qu'on veut oui. ramener à la politique.
Exact.
Ils ont cette façon de parler aux jeunes.
Oui. Il y a eu beaucoup de jeunes aussi impliqués au ouais, sein oui. là, qui a aidé, je pense, un peu à
je pense que
vos
oui.
débats et tout ça.
Oui, puis bon, QS utilise beaucoup les médias sociaux, toutes des affaires qui existaient moins. Ben, quand j'ai quitté, oui, mais quand j'ai commencé, là, au début de Québec solidaire, on était beaucoup moins là-dedans.
Vous n'aviez pas votre Instagram à l'époque?
Non, pas pantoute. Alors, moi, je trouve que c'est très bien, en fait, que ça se passe comme ça. Moi, j'ai quitté, c'est parfait. Les plus jeunes prennent la relève et utilisent tous les outils à leur disposition pour parler à un public effectivement beaucoup plus jeune, mm-hmm. qui n'écoute pas le téléjournal, qui ne lit pas de journaux, mais qui s'informe sur Internet. Ouais,
c'est exact. Mm-hmm.
Et je trouve que Québec solidaire le fait bien.
Émilie Lessard-Terrien, 26 ans, et bientôt 27, je crois.
Elle m'impressionne.
Élue en Abitibi-Témiscamingue.
Elle m'impressionne. Ouais. Je ne la connaissais pas du tout, je vais être honnête, là, pas du tout, pas une miette, je ne l'avais jamais vue de ma vie. Mais j'ai su après qu'elle s'était beaucoup impliquée quand même... ici au Témiscamingue en particulier. Là, j'ai eu maintenant l'occasion de la côtoyer un petit peu plus, de la rencontrer, même de souper avec elle. Elle m'impressionne. Quelle femme intelligente qui connaît ses dossiers, qui est articulée. Après ça, les gens ont le droit d'être d'accord ou pas d'accord. Là. Ça, c'est une autre chose. Et quelle femme généreuse, dévouée, qui donne, mais vraiment beaucoup, beaucoup de son temps. Bon, tout le monde sait qu'elle est enceinte, qu'elle va avoir un bébé cet été. Moi, j'espère que les gens vont comprendre et je dirais même appuyer le fait que pendant quelques mois, elle sera très peu à l'Assemblée nationale. Je pense que le Québec est rendu là, là.
Il y a eu Kristen Moore ici en Abitibi, au fédéral, okay, qui a eu un peu le même principe.
Il y a eu deux enfants, je pense, pendant ses mandats.
Je pense qu'on est. Faut qu'on comprend.
Oui, puis il faut qu'on soit ouvert à ça parce que sinon, on dirait à toutes les femmes en âge d'enfanter, vous ne pouvez pas faire de politique.
Ça fait, non, c'est pas possible. Pas de sens.
Donc, je pense qu'il faut comprendre les choses. Je suis convaincue qu'elle ne restera pas bien loin de son monde, mais c'est des bons exemples. Puis là, il y a la ministre de la Sécurité publique au Québec, Mme Guilbeault, qui vient d'avoir un deuxième enfant. Bien, je pense que tout le monde est capable de comprendre qu'elle ne passe pas sa vie à l'Assemblée nationale. Il y a une évolution des esprits qui se fait là-dessus.
Et l'Assemblée veut aussi mettre des mesures pour accueillir davantage les jeunes mamans.
Oui, mon Dieu, j'en reviens pas. Bravo!
Une garderie peut-être ou un CPE à l'Assemblée. Ouais, ouais. Je sais qu'il y en a un au Ottawa, je ne me trompe pas.
La petite assemblée.
Oui, c'est ça.
La petite assemblée.
Ça serait bon.
On ira les écouter discuter.
Ben, merci, je sais que vous avez un horaire assez chargé. Vous devez retourner à Montréal, mais merci d'avoir quand même pris le temps avec nous pour discuter un peu.
Merci à vous de m'avoir invité.
Bienvenue au micro, puis on aura l'occasion peut-être de se reparler plus tard.
Sûrement.
Pour d'autres raisons.
Sûrement. Merci à vous.
Merci beaucoup.